Radio Campus Lille, 13h.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui sur Radio Campus 106.6. Il est 13h et aujourd'hui, nous allons vous proposer un sommaire d'actualité. Et pour animer cette émission, nous sommes trois aujourd'hui. Il y aura moi-même François, je serai accompagné de Reynald et de Dominique. Bonjour Reynald.
Bonjour François.
on s'installe à tout juste dans le studio et on va vous parler d'actualité puisqu'il y a le salon de l'agriculture qui se passe en ce moment et ça nous permettra à nous de vous parler un peu des différentes technologies qui sont déployées lors du salon de l'agriculture, de différentes news que nous avons pu voir. Et avant d'attaquer ce gros sommaire, ce gros sujet d'agriculture, Dom et Reynald, vous avez été faire un peu d'investigation à Cannes.
C'est gentil, ça. Ouais. Investigation au soleil. Profitez de la croisette, la magnifique croisette au mois de février.
Alors Cannes, c'est pas un donc, la croisette, c'est parce que. C'est
ah, attends, c'est bon.
Donc la croisette, Dom.
Ah, la croisette, c'est magnifique, Cannes. Bon, au mois de février, c'est ça. Ça envoie pas du pâté, mais. donc on était au festival de Cannes un petit peu en avance parce que c'était le festival international du jeu de société. De Cannes. Absolument. Qui a eu encore un gros succès cette année puisque on a eu les chiffres. Donc c'était le 33e festival de Cannes, 10% de visiteurs en plus pour un total de 110 000 festivaliers sur 4 jours puisque ça commençait. Nous on y allait le vendredi, le samedi et le dimanche toute la journée. Et c'était ouvert le jeudi aussi pour les professionnels, la presse, ouais. Puisque c'est vraiment un salon international. C'est la première fois qu'on y allait et on a pu découvrir tout le côté, les coulisses, le côté professionnel, les gros éditeurs de jeux qui ont des rendez-vous toute la journée avec les boutiques qui venaient du monde entier aussi. Il y avait des stands de fabricants chinois, il y avait des Allemands, des Finlandais, des gens qui venaient de tous les pays.
On a retrouvé des boutiquiers de Lille justement qui faisaient leur séance pro pendant que nous on se baladait.
On a croisé un nombre de ch'tis incroyables là-bas. Ouais. C'est fou, quoi. On s'est retrouvés.
C'est fou d'aller jusque là-bas pour croiser les gens de Ludinor.
Tu fais 1200 km pour revoir des Lillois.
Il faut savoir que depuis l'origine aussi, parmi nous, il y a bien sûr tous les jeux actuels, mais il y a aussi tous les jeux classiques, hein, puisqu'il y a des tournois, c'est du championnat de belote, de Scrabble. L'année prochaine, François, il faut qu'on s'inscrive au tournoi de belote. Hein.
C'est vrai.
Je dis, en plus, il passe devant dans la file, c'est terrible.
Entre deux tournois de Kifforge, on se fera une petite belote.
Dans la file d'attente sur on fait la queue sur la croisette, c'est quand même sympa quoi, à 9h du matin, 8-9h du matin. Non, puis on voit les différences, les différences de moyenne d'âge entre les gens qui viennent pour le Scrabble et les gens qui viennent pour jouer à Pokémon.
C'est vrai qu'on était parti Pokémon. On a vu un énorme chapiteau à côté de la file où on attendait pour pouvoir rentrer, mais juste pour le tournoi Pokémon. À gauche t'avais le Pokémon, à droite t'avais le Scrabble. T'avais un gap assez important quand même.
Il y a plus de 300 exposants, 5000 professionnels. Enfin, je vais pas établir le chiffre. Tous les auteurs, les illustrateurs sont là, toutes les boutiques, les associations. Alors ça va du jeu classique, du jeu pour enfants. Il y avait un étage en sous-sol qui est vraiment tous les jeux modernes. Un étage un petit peu plus haut pour tous les jeux famille, enfants, etc.
Qui était
intéressant.
Vraiment bien fait, ouais.
Et entre les deux, juste au-dessus de l'été, il y avait aussi la drone, Drone Champions League, des courses de drones. C'était une étape du championnat international de courses de drones. Alors ça, c'est incroyable à voir. Donc, imaginez le petit drone que tout le monde s'est payé à Noël, etc. Sauf que vous mettez un casque virtuel sur les yeux et il y avait toute une course d'obstacles. Donc, vous pilotez vraiment votre drone télécommandé avec votre manette, mais sauf que vous portez le casque et la caméra est dans les yeux. En plus, les spectateurs peuvent voir ça. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des vrais obstacles et on voit vraiment les drones se déplacer.
J'ai vu ça, mais c'est impressionnant. Lorsqu'on le voit en extérieur, on voit les drones voler à une vitesse incroyable, passer entre les slaloms. On se dit, mais comment c'est possible?
En plus, les décors sont lumineux. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo, sauf que c'est pas des images générées, c'est des vraies caméras qui filment ce qui se passe.
Donc, ça veut dire que ce salon du jeu n'est pas seulement un salon du jeu de société, c'est non. également
le jeu en général. Il y a eu quelques bornes vidéo, on a même vu
des baby-foot, il y a du jeu vintage, il y avait des tournois de jeux style Street Fighter, etc. Il y avait plein de choses différentes. Beaucoup de jeux de société qui se basent sur des applications, donc le jeu entre le jeu vidéo. Alors, il y a eu une partie il y a quelques années où le jeu vidéo avait pris beaucoup plus d'importance, mais là, ça diminue un petit peu. On voit de plus en plus le retour du jeu de rôle aussi. Pour la première année, il y avait eu GSUE. Il y avait les remises parce que le jeu de Cannes, c'est aussi l'occasion de remettre les LAS d'or. C'est une récompense attribuée à des jeux de société. Dès qu'on les retrouve en temps, on va donner le nom des gagnants et encore. mais cette année aussi, pour la première fois, il y avait la remise des prix pour une cérémonie pour le prix du jeu de rôle, qui est un domaine qui est en train de se développer encore. Et il y avait même en première partie de cette nouvelle récompense, la remise des prix. Pour les livres dont vous êtes le héros, ce type. C'est ça un phénomène, il y en a de plus en plus et il y a beaucoup plus d'éditeurs. Il y avait des stands entiers de livres dont vous êtes le héros d'aventure avec
existe.
Des auteurs qui venaient dédicacer, c'est incroyable.
C'est fou qu'on a encore des jeux dont vous êtes
ça revient,
vous
ça
êtes
revient de plus
héros.
En plus.
Ah
oui, c'est des bandes dessinées maintenant,
oui,
ça a vraiment évolué. Quoi.
Et ça n'évolue pas en format numérique, on reste toujours sur des bouquins.
Il y a toujours le format numérique.
Si, t'as toujours eu un format numérique, mais le format numérique, c'est ça parle pas aux trentenaires ou aux quadra qui ont commencé justement avec les livres dont vous êtes le héros de l'époque. Après,
allez, 40 pages plus loin.
Allez paragraphe exactement. 12 si tu vas à la droite.
Il y a une catégorie normale et il y a une catégorie moins de 50 chapitres. Donc c'est les chapitres numérotés de 1 à 50 où on va faire. Il y a une catégorie comme ça. Il y a plein d'auteurs et français, étrangers, traduits. C'est vraiment super dynamique. Et parmi les donc il y a le jeu dont on parle pratiquement chaque fois dans Chemin Glissant, Keyforge, qui était nominé pour l'As d'Or, qui ne l'a pas eu.
Dommage.
Mais c'est pas grave.
Parce qu'il en a pas besoin.
Il en a pas besoin. Il a un gros succès comme ça. Oui, c'est pas toujours les gagnants qui vont vendre le plus, quoi.
Ouais, sauf en Allemagne. Mais c'est une autre histoire.
C'est comme au Festival de Cannes, quoi. C'est comme en vrai.
C'est pas toujours les films qui gagnent qui font faire le plus de spectateurs. Et qui forgent. On a participé à un tournoi. Il y avait des tournois organisés là-bas toute la journée. On a participé à un tournoi.
Alors attention.
On peut en parler de ce tournoi, mais.
Alors
bon.
Déjà, on était combien? On était une vingtaine de participants.
Oui, il y avait entre 9 et 10 tables.
On veut dire qu'on était 15 de Lille, à peu près.
Voilà, c'est
C'est marrant, les gens qui font 1000 km, 1200 km pour jouer contre leurs potes avec qui ils jouent toute la journée, tout le reste de la semaine.
Qu'on voit au tournoi dans l'autre du coin.
Tu fais, mais on s'est déjà vu quelque part. Bah oui, on est au beau jeu. Au beau jeu, mais tu veux dire de Lille ou au beau jeu de Cannes?
Non, de Lille. C'est trop fort. Et oui, bon, en plus, on les a revus dans l'avion revenant. Ça, c'est voilà. C'est marrant. Donc, on a participé. Je suis très content d'annoncer que j'ai fini dernier. Avec zéro victoire. Je termine même dernier après quelqu'un qui a abandonné le tournoi en cours de route. C'est pour dire le niveau.
Et pourtant, c'était un tournoi qui était assez long, qui s'est fait en 5 rondes, alors qu'on pensait pas du tout. Ça nous a pris
plus que de pouvoir
la matinée
contre de plein de. Ah ouais. Il y a même un père de famille qui était là avec ses deux enfants, un garçon et une fille qui avait une 8 ou 9 ans, je crois. Ouais. Et qui se débrouillent très très bien. Ils ont leur petite boîte où ils ont rangé leur deck. La fille a une boîte rose, c'est vraiment typique, avec des autocollants dessus, Hello Kitty pratiquement, c'est vraiment. Et le gamin qui était en pleurs avant son dernier match parce qu'il avait perdu tous ses matchs, il voulait gagner. T'avais presque envie de perdre contre lui.
Il est tombé contre moi pour son dernier match. Donc,
t'aurais pu laisser gagner quand même.
Pourquoi il n'a pas été au tournoi Pokémon? Parce qu'il y avait un tournoi Pokémon.
Tout petit maintenant, c'est dès le berceau. Non, alors c'est ça qui est marrant, parce que tu vois les gens qui viennent pour Pokémon, c'est la moyenne d'âge de 30-40 ans. Quoi.
C'est clair.
Alors tous les gamins viennent jouer à Keyforge. Ah, c'est rigolo. C'est ça qui est génial.
Ça, c'est sympa. Donc il y aura une prochaine édition, bien sûr, l'année prochaine. Ça sera le 21 et 23 février 2020. Vous pouvez déjà réserver vos dates.
Je pense qu'on va y retourner, c'est sympa.
Et vu le nombre, 110 000 festivaliers, c'est quand même, c'est quand même sympa. Donc,
impressionnant l'organisation.
Est-ce que ça ne serait pas un bon démarrage pour ensuite aller à SN? Alors, si on parle de jeux de société uniquement.
Oh, tu nous embarques là.
Ouais, en fait, SN, c'est quand même encore un plus gros salon, mais déjà, Cannes, c'est énorme. En fait, il faut imaginer, pour ceux qui sont du département et de la région, il faut imaginer aller dans des allées comme la Braderie de Lille. En fait, si tu es en plein milieu de l'allée, tu vois rien de ce qui se passe à gauche et à droite.
Ouais, ça va encore.
Il y a beaucoup de monde, énormément de monde. C'est pas les petits festivals comme on parlait de Ludigeek il y a quelques émissions. Ou là non, t'as trop de monde.
Mais il y a la possibilité d'acheter les passes VIP qui vous permettent.
Bon, c'est pas si d'être. C'est ce qu'on avait fait, mais
au lieu d'être à 110 000 dans la même pièce, vous n'êtes que 3 000.
En fait, tu gagnes une heure de tranquillité où nous, le premier jour, on a profité pour se balader et voir le plus de choses possible.
Au lieu de faire la queue à 9 heures pour entrer à 10 heures, tu fais la queue à 8 heures pour entrer à 9 heures. c'est juste ça.
Ouais. T'as juste que les professionnels sont un peu plus disponibles avec toi pour discuter de leur jeu.
Tu montres que t'as ton petit bracelet rose, que t'es VIP. Allez.
Ouais.
Voilà. Ouais, t'as dépensé un peu d'argent pour soutenir le festival. Bon. Allez. J'espère que l'année prochaine, on ira avec un petit badge presse.
Ah, on essaiera.
Radio Campus, ça serait pas mal.
On essaiera dans plusieurs festivals, hein, au fur et à mesure. On va enchaîner avec un peu d'agriculture, hein, puisque c'est l'actualité. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, nous, on fera pas comme les autres, on parlera pas de politique. Nous, ici, on va se mettre en condition pour parler d'high-tech, pour parler d'avancées technologiques, et ensuite, éventuellement, des petites news insolites si qu'on a vues dans le salon. Alors, tout d'abord, c'est vrai que nous, on est en métropole, donc on n'est pas forcément, on n'a pas la visibilité sur ce qui se passe forcément lors des récoltes dans les champs, puisqu'on est, on est quand même assez loin. Donc c'est difficile de juger à quel point la technologie s'est déjà immiscée dans l'agriculture. Et lorsqu'on a travaillé le sujet, je me suis dit, c'est vrai qu'on a déjà des...
Ouais, tu vois déjà les machines agricoles, comment elles ont évolué grâce à la technologie.
Oui, c'est ça. Quand je vois les tracteurs, bah, j'ai pas mal d'agriculteurs dans ma famille, et quand je vois visiter les fermes et que...
Ah, ça y est, tu fais de la pub pour une autre radio.
Exactement.
Dom vient de hacker Radio Campus.
Et quand je vois les tracteurs de maintenant, bah, c'est limite si c'est pratique. Bah, c'est déjà, ils sont immenses et ils sont super connectés. Et c'est, t'as l'impression d'être de piloter un petit peu des drones. Ouais. C'est ça, c'est incroyable. T'as des manettes de joystick, des ordinateurs, c'est connecté. C'est incroyable. Tu limite, tu t'attends à avoir un écran bleu quand le tracteur bug et tout.
C'est ça. Et vous allez le découvrir puisqu'on va parler de plusieurs sujets. Est-ce que dans 20 ans, l'agriculteur ne sera pas tout simplement un informaticien? C'est la grande question qu'on va se poser.
Je dirais plus ingénieur qu'informaticien, mais bon, c'est notre question.
Ingénieur en informatique?
Non, ingénieur tout court. Parce que vu le domaine de compétences qu'il doit avoir, c'est ingénieur tout court.
Faire un certain nombre d'études, quoi. Tu vas avoir des diplômes. Enfin, c'est mieux pour reprendre
Écoutez, je pose la question maintenant. On y répondra juste après. Alors, première technologie qui apparaît un peu partout dans tous les domaines, hein, dans les domaines de la sécurité, de la photographie, etc. Ce sont l'univers des drones.
Ben, on en parlait tout à l'heure avec le championnat du monde. Il y a peut-être des futurs agriculteurs dans les champions
qui vont pouvoir sillonner leur champ plus vite que les autres.
Quoi, parce que ça fait des années que depuis qu'il y a des satellites et les GPS, bon, ça c'est des technologies qui commencent vraiment à être prouvées, que le minimum c'est d'avoir un tracteur, de pouvoir gérer tous tes tracteurs, tes outils agricoles par GPS, repérer grâce aux photos satellites l'état de tes terrains, etc., l'ensemencement, etc., les terrains qui ont besoin de plus d'eau, plus de soleil, etc., ça c'est le minimum. Mais maintenant, tu vas plus louer si t'as beaucoup de terrain. Tu pouvais louer éventuellement, je sais pas, soit les services d'un professionnel ou même un hélicoptère pour survoler tes terrains pour voir. Maintenant, non, il suffit d'acheter un petit drone à quelques dizaines ou centaines d'euros, etc. Et depuis ta ferme, tu peux pratiquement tout faire depuis ton lit, quoi. Le temps où l'agriculteur se lève avec, maintenant il se réveille, il allume son ordinateur portable, il branche ses drones et il envoie ses drones pratiquement surveillés pour voir si ses terrains sont bien, etc., quoi.
Ça, c'est une technologie qui existe depuis 2011, mais qui est vraiment, qui commence à être distribuée en France, notamment par Erinov. Dont Parrot est un gros actionnaire. Et eux proposent pour 10-15 euros l'hectare de justement survoler le champ avec un drone. Et ça permet donc de voir l'état des cultures.
C'est le minimum de surveiller, voilà.
Et de savoir laquelle on va devoir semer, laquelle a besoin d'être récoltée.
Je pense que dans 20 ans, il y a peut-être des agriculteurs qui ne mettront plus jamais les pieds sur leur champ, quoi. Ils ne les feront que de façon virtuelle. Il y a peut-être des robots qui vont piloter leur tracteur, leur robot.
Je sais pas.
Que ça peut venir, quoi.
T'as quand même l'expérience humaine d'aller vérifier terre, si ta terre a besoin de certains types d'engrais et pas un autre. Enfin, t'as toujours quelque chose qui met que l'humain est toujours indisponible.
Ouf.
Indispensable,
ou pas, puisque
on arrive à faire ça sur Mars.
Le drone peut prendre des photos maintenant en HD. Serait éventuellement capable de prendre un échantillon et te le ramener pour que tu touches toi-même.
En plus, il pourra le voir en infrarouge et compagnie.
Voilà, c'est le fait de...
Si vraiment t'as besoin de toucher la plante. Mais
on envoie des rovers sur Mars, des petits robots qui avancent, qui sont capables d'analyser la Terre, la structure de la Terre, de l'hygrométrie, etc. Alors pourquoi pas le faire dans le champ qui a 100 mètres de taille. Enfin, 100, je dis 100 mètres. Maintenant, une ferme, on va dire qu'elle gère les champs autour d'elle, mais tu pourras très bien être dans le nord de la France et gérer des champs qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde.
Ah, donc l'agriculteur
sans
peut
problème,
partir en vacances
réel, avec la 5G, ça va venir.
C'est ça, l'intelligence artificielle. Alors il n'y a pas qu'avec les drones dont on est capable de faire ça, il y a aussi des capteurs qu'on peut mettre dans le champ, donc des sortes de petites lampes.
Des sondes super évoluées, oui.
C'est ça, exactement. Donc il y a déjà plus de 2000 capteurs qui sont installés en France. Là, ça permet de calculer carrément l'humidité.
C'est ça. Avant, l'agriculteur se levait le matin et regardait la météo sur Météo France, etc. Mais maintenant, la moindre ferme a sa propre mini-station météo et tu pourras bientôt avoir une mini-station météo par champ, par parcelle et compagnie.
Oui, parce que ça existe déjà avec le déclenchement automatique des arroseurs qui faisait
que... Et là, on parle que des champs de... Pour les éleveurs, c'est-à-dire le minimum, c'est d'avoir un collier, voir une puce dans l'animal, connaître la santé en temps réel.
Et après, tu manges ton steak, tu fais « Ah, j'ai la fève !»
Exactement. Mais un collier, et tu pourras connaître en temps réel l'état de santé de tous tes animaux, savoir où est-ce qu'ils sont, tu n'auras plus besoin de les surveiller, enfin, c'est impressionnant.
C'est ça. Et les entreprises françaises, dont Winat, là, se permettent de faire ça. Vous mettez donc cette petite lampe, ça vous fait 8 capteurs différents qui gèrent la température, la qualité de l'air, etc.
Ça peut, alors on est allé au salon, mais ça pourrait être un de ces jours d'aller au festival d'agriculteurs. Au salon d'agriculture, je suis sûr que la proportion de toutes ces petites start-up a boosté au fur et à mesure des années sur les emplacements des salons, quoi.
Alors ça, c'était un peu ce qu'on peut trouver en France. Il faut savoir que dans le monde entier, la Chine, les États-Unis, eux, sont vraiment concernés par ces problèmes d'agriculture et s'y lancent à fond. Aux États-Unis, on a Microsoft qui va s'allier avec...
Petite boîte locale.
Cette petite start-up va s'allier avec d'autres compagnies dans l'agriculture, justement, pour pousser un peu la technologie et notamment l'intelligence artificielle. Et ils ont déjà fait leur preuve, Microsoft, puisqu'ils ont gagné une compétition sur l'agriculture autonome. Alors, qu'est-ce qu'une compétition sur l'agriculture autonome ?
Le fait que ça marche existe, c'est...
Waouh !
Le but, alors, plusieurs compagnies doivent gérer plus ou moins une parcelle et n'ont pas le droit d'intervenir physiquement.
Donc c'est que virtuel, enfin virtuelle façon de parler, quoi.
C'est t'as que de la programmation d'engins et de...
Un peu comme les concours de combat de robots qu'on voit voir un petit peu partout. Oui.
Donc ça s'est passé en août. Ils ont dit, bon écoutez, on vous donne cette petite parcelle et celui qui a le plus de concombres à la fin a gagné.
Donc tu pars de zéro, tu plantes et c'est vraiment...
Et le championnat s'est fini en décembre et ils ont annoncé en dernier.
Ouais, donc tu fais un achat sur un drive quelconque, tu dis je veux 3000 concombres, ils te les livrent et c'est bon.
Non, ça marche pas ça.
Donc voilà, c'est Microsoft qui a réussi à faire pousser le plus de concombres.
Plus de 50 kilos de concombres au mètre carré. Ouais. Waouh. Après, est-ce qu'il faut goûter on ne sait pas s'il fallait goûter la qualité des concombres ou pas.
Mais sans intervention humaine, ce qui est quand même...
Il y avait du lourd en face. Il y avait Intel aussi qui était venu en force. Donc, c'était pas que des petits labos. C'est vraiment un enjeu majeur, quoi. L'agriculture dans le monde, le fait de nourrir toute la population humaine, on sait que c'est un sujet de débat. On a dit qu'on ne parlait pas de politique, mais...
Ce qui est un problème, c'est que les champs sont pas près des consommateurs, absolument, dans le fond. La majorité sont dans les métropoles, du coup, il faut acheminer l'agriculture dans les villes, ce qui coûte, ce qui est potentiellement polluant, puisque vous allez utiliser des camions, peu importe. Du coup, maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire de l'agriculture dans les villes.
Exactement. Mmh. Sur les toits, les toits des immeubles. Là, je suis sûr que sur le toit de l'immeuble M1 ou Radio Campus, il y a moyen de faire pousser un maximum de concombres ou autre.
Alors, il y a les toits de 1, mais il y a aussi maintenant les fermes verticales.
Waouh. Mmh.
Alors ça, on en parlait il y a déjà quelques années, mais là on les voit enfin se mettre en place. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un champ qui va être étalé horizontalement sur plusieurs hectares, là vous allez avoir une tour qui va contenir plusieurs étages et à l'intérieur vous allez avoir donc des plantations. Alors, là ce qu'ils font dernièrement à New York, c'est des salades, ils font une culture de salade. Et le problème qu'ils ont eu initialement, c'était la consommation d'énergie. Puisque pour justement alimenter chaque étage, parce qu'il faut faire de la lumière artificielle dans ce cas-là.
À New York.
Et ensuite, il faut faire passer l'eau et il y aura aussi une intervention d'intelligence artificielle dont on parlera tout à l'heure. Mais là, ils sont en train de développer des sortes de petites LED à faible consommation électrique qui sont capables justement de faire pousser comme ça plusieurs étages de salade.
Le côté intéressant là-dedans, c'est qu'avant, on imaginait des champs, c'était des champs à perte de vue, voilà, tu faisais pousser juste 2 mètres sur 2 mètres de maïs, quoi, tu fais pousser des centaines d'hectares. Tandis que maintenant, tu peux avoir des petits, un petit comme des mini potagers, c'est des petits modules, quoi, où tu fais pousser, voilà, t'as 20 mètres carrés sur le côté d'un immeuble, pas de problème, tu peux déjà planter soit que des carottes ou des salades, etc., ou même faire un mélange, et de façon autonome. Donc, c'est ce côté-là, c'est ce côté mini unité presque transportable de culture locale, quoi, qui peut déjà nourrir une famille pendant un moment, quoi.
Pour les pays en voie de développement ou qui ont des problèmes parce qu'ils ont des problèmes de chaleur, désert ou autre, tu peux prévoir ce genre de mini structure. T'as juste besoin d'alimentation en courant et de réserve d'eau.
Et encore, mets des panneaux solaires, tu peux te débrouiller. Voilà. Quoi.
Et donc, t'as pas besoin d'énormes hectares de terres cultivables. Et là, pour eux, c'est tout bénef. Voilà.
Mais ça veut dire que maintenant, quand t'avais ta maison à 3 étages et le 3e, tu savais pas quoi en faire, t'en faisais un grenier. Maintenant, tu vas pouvoir faire un petit jardin.
Tu mets des champignons ou autre, ou des ce que tu veux, etc.
Alors, il y a des fermes qui se construisent, qui valent à peu près 40 millions de dollars lorsqu'elles se construisent. Mais il faut savoir qu'on a forcément beaucoup de personnes qui s'intéressent, hein, notamment le patron d'Uber, Google, également a investi plus de 120 millions de dollars.
Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Elon Musk, je suis sûr qu'il a fond dedans.
J'ai des news.
Il est déjà en train d'aller planter des trucs sur des carottes sur la Lune.
Lui, il les a déjà mis sur Mars, il s'en fout maintenant. Mangez vos pauvres salades terriennes, ça m'intéresse pas. On parlait de drones tout à l'heure, mais peut-être qu'on pourrait faire une petite pause musique, Dominique.
Oui, ça faisait longtemps.
Alors, tu nous as proposé plusieurs extraits.
Pour rester dans le thème.
Je te laisse en choisir. Hein.
Quoi? Je sais pas.
Nous avons Terre Altitude.
Ah, c'est alors que je me rappelle de ce que c'est ça. C'est une bande de, enfin c'est en Bretagne, si pas de bêtises, je sais plus. C'est un salon qui s'appelle Plumeaudan, c'est le nom du patelin. Donc
c'est ça.
C'était et ils sont amusés pour promouvoir leur salon, ils sont amusés à reprendre une chanson. On va dire d'un jeune salle à mode, Maître Gims. Ils ont repris une chanson, ils ont adapté un peu les paroles pour faire de la publicité pour le centre. Donc c'était au mois d'août 2018. Est-ce qu'il y a une édition en 2019? Je ne sais pas.
On n'a pas le droit de passer du Maître Gims, donc
non,
ça passe.
Non, mais il faut l'appeler Gims maintenant, il ne faut plus l'appeler Maître.
Ah, c'est vrai, pardon.
Attention.
Je comprends pas, je l'appelle pas.
Et puis j'avance, attention à toi, Terre Altitude est là, je vais prendre mon drone. Mais le podré,
tu vois, drone.
Jusqu'en nous.
On dirait le clip des Républicains là, quand les jeunes chantent.
Exactement.
Allez, les gars, tous
d'accord,
motivés,
ça chante bien.
On avait dit pas de politique.
Oh, mon Dieu.
On va se marrer.
On est sur Radio Campus, c'est dur. On passe presque du Maître Gims sur Radio Campus, c'est terrible. Je sais pas où on va aller.
Bon, on arrive.
Voilà, on arrive.
Le clip est pire.
C'est vrai qu'il y a un clip à voir. Donc, cherchez Terre Altitude 2018.
J'anime Terre Altitude, Tracteur Force, Mama Cross et tous autour.
Eh ouais.
J'ai aussi la mini ferme, mes pommes d'animation. On aime aussi la Green Night, on peut aimer les moules frites, c'est pas compliqué.
Ça casse un peu. Ouais. Ça casse l'image du vieil agriculteur avec son béret et compagnie. Quoi.
Les moules frites,
s'il te plaît.
Avec eux. Oui, on en prendra plein les yeux. Vive les GIA, vive la fiesta, on va pas manquer ça. Hey.
C'est bizarre, à chaque fois qu'on passe de la musique, les gens quittent le studio.
C'est vrai, on peut. Salut.
À bientôt, Rénal. Allez, on va enchaîner cette fois-ci avec une petite news de drone, puisqu'on a beaucoup de problèmes en ce moment. On a beaucoup d'espèces qui...
Ah bah oui, c'est l'actualité. On risque de voir dans quelques années disparaître les insectes, les abeilles en particulier, mais tous les insectes. Quoi.
Sauf que ces insectes sont très importants pour l'écosystème et notamment sont présents dans notre chaîne alimentaire et dans l'agriculture et dans d'autres choses. Et du coup, on essaie de remédier à ça avec les drones. Et là, c'est un exemple qui se passe sur le manque d'abeilles, donc le manque de pollinisation qui a lieu. Là, des ingénieurs ont développé un petit drone qui sera capable lui-même de polliniser les fleurs. C'est génial.
Ça peut aider à remettre en place une biodiversité de plantes dans des champs, même dans les villes tout simplement, et de permettre aux abeilles de ne pas, être...
Un camp du miel de drone.
Bientôt. Alors ce sont des chercheurs japonais qui ont créé ce petit drone qui fait 4 cm sur 4 cm, c'est tout petit.
C'est encore gros pour un drone abeille, on va dire. Alors, j'imagine que dans 10 ans, on aura peut-être des drones qui feront 4 mm sur 4 mm. Ça viendra.
Donc au-dessus, ils ont tout simplement mis des sortes de petits poils. On dirait qu'il y a du gazon au-dessus du drone.
Ça simule le fait, oui. Parce que, ouais, on ne va pas rappeler les
poils
les
abeilles.
Les cours de LVT. Donc voilà. Les abeilles, si je me souviens bien, c'est ça, elles ont des pattes un peu poilues. Elles passent de fleur en fleur et le pollen se débosse sur se colle aux pattes des abeilles qui va les transporter ailleurs. Et donc là, oui, si tu mets un drone tout nu, oui, le pollen, bah, il s'en fout, il ne va pas s'attacher.
Déjà, c'est indécent, hein, s'il te plaît. Tu l'habilles, s'il te plaît.
Donc tu mets des drones avec de la fourrure pour récupérer le pollen et le transporter, c'est génial. Est-ce qu'il y aura une intelligence artificielle qui va contrôler ou est-ce qu'ils vont aller au hasard? Est-ce qu'ils vont faire une petite danse pour montrer aux autres drones il faut aller là-bas, etc. Peut-être, on y viendra.
Et t'imagines après l'abeille qui parle avec le drone, il faut aller là-bas.
On va tuer tous les insectes, on va les remplacer par des drones, c'est magique.
Alors tu fais peut-être une référence à un épisode de Black Mirror
ouais.
Où justement les drones se retournent contre les humains.
Ouais, on va pas spoiler, mais en fait, là, il y a trop de... Enfin, c'est pratiquement impossible d'arriver, pour l'instant, d'arriver à l'épisode de Black Mirror.
Oh, pour l'instant, mais ça va être très très vite.
Tu peux pas donner à un essaim de plusieurs milliers d'individus une conscience
d'essaim. Non, c'est pas ça, mais si le drone t'a confondu avec une fleur, tu peux être très vite embêté par son drone sur ta tête.
Quand des drones qui vont venir la nuit, comme les moustiques qui vont t'empêcher de dormir.
De la fourrure qui se frotte à toi et tout.
En plus, le bruit des drones, c'est à peu près le même bruit que le bruit des insectes. Non,
Est-ce que les phobiques des insectes vont passer phobiques drones?
Oui, je crois qu'il y a déjà de la phobie de drones, à mon avis. Voilà.
On va enchaîner avec un virus qui est en train d'attaquer beaucoup de cultures et qui semble être un virus incurable. Ordom, est-ce que tu connais cette solution pour protéger la monoculture de courgettes?
Voilà, là, c'est suite au virus mosaïque qu'on l'appelle.
Donc le nom, pourquoi pas.
Parce qu'en fait, ça décolore et ça nécrose certains tissus fibres cellulaires de la plante. Et donc, ça leur donne, là où c'est attaqué, tu as une teinte différente. Par exemple, un concombre, qui est vert, va passer jaune ou va passer noir à l'intérieur. Et donc, sera pas propre à la consommation.
Et donc, il y a un producteur des Bouches-du-Rhône qui constatait que ces cultures étaient atteintes et il a cherché plein de solutions. Et il ne voulait pas non plus forcément aller chercher du côté de l'industrie, de la chimie, etc. Et il est tombé sur une société qui s'appelle Géodine. Non, j'ai plus. Génodix. Qui proposait une solution à peu près originale. Il disait, écoutez, on est peut-être capable de guérir vos plantes avec de la musique.
Ou d'enrayer la progression.
Ouais, c'est ça, d'enrayer la protection. Ouais, ouais. Et il a pris contact et puis il a essayé la solution. Et il suffit que chaque nuit, il passe 5 à 7 minutes d'une certaine musique.
Bien ciblée.
C'est pas Maître Gims. Hein.
Non, c'est pas du Maître Gims.
C'est du Zaz. Le virus fait, c'est bon, je me casse. Salut.
Ah, tu mets du Zaz, t'es tranquille. Et presque miraculeusement, je t'avoue qu'en lisant la news, je me dis, mais c'est une fake, cette news, c'est pas possible, elle est parue le 1er avril ou je ne sais pas, et pas du tout. Et en fait, la société a réussi à s'apercevoir que les protéines, enfin certaines protéines généraient des sons, de la musique, enfin on est tous sensibles aux vibrations, etc., certaines fréquences, ils sont capables de générer de la musique qui va projeter des bonnes ondes, on va dire, aux plantes.
Parce que certaines ondes servent aussi de communication pour certains insectes ou plantes. Donc,
on sait que les animaux s'en sont plus. On avait déjà eu l'exemple il y a quelques années d'éleveurs qui mettaient de la musique à leurs vaches pour qu'elles soient moins stressées, qu'elles produisent plus de lait, etc. Et ça marche.
Moi pareil, avec ma copine, je mets de la musique, elle est moins stressée, tout ça.
Et là, en fait, ils ont fait quelques essais, ils ont ajusté, et il a réussi à sauver ses plants. C'est impressionnant.
Ils ont toujours le virus mosaïque, mais il n'y a plus de nécrose et il s'est devenu propre à la consommation. Il peut donc les vendre. Et ça lui a sauvé son champ, son activité.
Ça représente à peu près 6 à 700 tonnes par an, donc c'est vraiment un chiffre d'affaires important pour lui. Sinon, ça ferme couler, quoi.
Mais du coup, quand tu manges, t'es obligé d'écouter de la musique.
Pour être sûr qu'après, jusqu'à temps que tu l'as évacué, pour être sûr que ça se nécrose pas en toi et tout.
Tu imagines, c'est ça, peut-être des micro-ondes qui vont faire de la musique en plus. Tu vas cuire, tu vas nettoyer, assainir tes aliments en même temps, etc. On y viendra.
Autre chose.
La société, actuellement travaille avec plus de 100 agriculteurs, 130 agriculteurs, contre d'autres pathologies, quoi. Ils font des essais. Mm-hmm. Et donc, c'est pas une farce. Donc,
voilà. La musique peut aider beaucoup de gens et beaucoup de plantes. Voilà.
Et je serais curieux de voir si tu vas dans une serre et que tu passes effectivement du Maître Gims ou du Zaz ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe sur tes plantes?
Après, ça dépend du niveau sonore aussi qui est demandé. Est-ce que c'est un niveau sonore où tu mets des haut-parleurs et t'emmerdes tous les voisins dès qu'ils le mettent à la ronde, et que si tu passes du Maître Gims, bon d'accord, tu te fais lâcher dès le matin suivant. Ou est-ce que c'est juste passer la vibration de la musique et donc se le passe en...
Faudrait essayer de récupérer, parce que là j'ai pas trouvé des extraits sonores pour voir. Alors c'est pas forcément de la musique mélodieuse, ça peut être juste des sons un peu bizarres, on ne sait pas trop. On passera sur Radio
c'est
Campus.
Comme les sons de cascade avec les petits oiseaux,
les boîtes à bruit pour t'aider à
t'endormir. Si on arrive à faire la même chose après, oui, sur les humains, etc. Ouais. Quoi,
t'imagines, mais moi, j'aime bien.
Rien qu'en écoutant Radio Campus, on pourrait faire rembourser Radio Campus par la Sécu. On guérit les maladies, on ne les guérit pas, mais on apaise.
On a la solution, hein. On fait planter les plantes au-dessus, là, sur le toit. On met de la musique.
On met un haut-parleur de Radio Campus à côté du plan.
Non, mais par contre, un test génial à faire. C'est ce que tu dis, prendre deux bacs, mettre une musique de merde à droite.
Tu mets tu fais plein de musique, tu mets du métal, tu mets du rap, tu mets du classique, tu mets ce que tu veux.
Ça serait un super test. Et on fait le même avec les animaux et les êtres humains. Après.
Mais de mémoire, ça a été fait il y a quoi, 20-30 ans, l'histoire de la musique sur les plantes. Mais après, chaque plante n'évoluait pas en fonction de telle musique.
Et c'est surtout que maintenant, technologiquement, on est capable, grâce à des simulateurs, des logiciels qu'on a maintenant, la chaîne artificielle, de mieux percevoir... et de mieux générer la musique qui correspond vraiment à tel ou tel. On est capable d'aller plus loin, quoi. Les microscopes ont évolué, les capteurs ont évolué, etc.
C'est ça. Autre chose qu'on a pu voir, notamment au salon de l'agriculture, et là on va repartir un peu dans le jeu qu'on parlait tout à l'heure au Festival de Cannes, il y a eu un escape game fait au salon de l'agriculture, mais justement en reprenant plus ou moins les codes de l'agriculture, donc où vous deviez un peu être un ingénieur de céréales ou découvrir les plantes, et vous aviez 5 minutes pour vous échapper de chaque pièce.
Wow. Un petit rappel sur les escape games, en général, ça fleurit, donc j'imagine que tout le monde connaît, même si on n'a pas testé. Tu t'enfermes avec des amis dans une salle, et tu as en général une heure pour t'échapper, résoudre une énigme, etc., des puzzles, ouvrir des canaux et compagnie.
L'escape game se déploie de plus en plus.
Depuis 2 ans, ça pullule de partout.
Au salon de Cannes des jeux dont on parlait tout à l'heure, il y en avait plusieurs. Il y a pas chaque société, mais beaucoup de sociétés avaient mis des mini escape games pour démontrer leur jeu, quoi. Et tu pouvais jouer directement sur place.
Alors si vous êtes amateur, à Lille, il y a plus que le choix. Il y a des choses à moitié maintenant, à moitié numérique avec un peu de réalité virtuelle. Ça reste assez sympa. Nous, on a quand même fait une paire d'escape games, de souvenirs. Hein. On s'est sali les mains une paire de fois.
Exactement.
Ouais, pas que les mains. Hein. Et c'est bien marré.
Et donc là, sur le salon, c'est un escape game qui durait quoi, un quart d'heure. Et ça permet à chacun de s'impliquer, de jouer le rôle, de mieux saisir à main presque, de mettre les mains dans le cambouis, dans la terre, comme on dit. Pour prendre le rôle d'un agriculteur, voir ses difficultés, la diversité, les circuits locaux, etc., toutes les nouvelles, parce que tu peux en parler, il y a des conférences, etc., mais ça reste un petit peu vague. Tandis que quand tu peux jouer autour d'un jeu de société un peu plus réel, en conditions presque réelles, tu perçois mieux surtout pour tous les petits citadins qui vont voir des animaux pour la première fois, si tu les fais jouer à ça, ça leur permet d'apprendre
mieux. C'est une bonne excuse à la découverte. Oui. Exactement. Et par contre, ils préviennent lorsque vous démarrez l'escape game. Il y a des choses qui sont mangeables dans le jeu, mais on vous invite à ne pas les manger.
Ah, dommage.
En même temps, si ça a été manipulé par 30 000 personnes juste avant toi, va savoir ce que tu as chopé. Quoi.
Dom, on se refait pas une petite musique d'agriculture, puisque je sais que tu as détecté cette chanson qui doit dater d'un petit moment, hein, Les Surveillantes.
C'est un groupe canadien.
Voilà. Oui, t'as tapé agricole sur YouTube, c'est ça. Hein.
Il y a pas mal de chansons autour du thème. Mais il n'y a pas beaucoup de choses modernes, mais bon.
Donc, on va écouter Les Surveillances avec chansons agricoles.
Comment dire, on est dans le temps. On est bien sur Radio Campus.
J'avais les bottes dans la boue quand ses talons hauts me sont apparus et s'enfonçaient dans la terre.
Tu nous as encore appris un truc génial.
d'un beau. En fait, Dom, c'est un album à découverte à lui tout seul. Elle parlait de la grande ville comme d'un pays
d'outre-mer et souriait quand je parlais. Ce que j'aime chez Dom, c'est que il ramène les musiques et après il enlève son casque.
J'ai dû écouter pour voir si c'était compatible avec Radio Campus. Ça va.
Allez, on va vous laisser écouter ça vu que c'est une chanson à texte. Allez.
Mais depuis qu'on a fait patate, mon cœur est une tomate. Tout comme un chat de la ville, elle m'a quitté sans prévenir. Je ne vois plus les étoiles, seulement son empreinte dans le sol. J'ai dû bêcher pour décider si je devais vraiment l'attendre. Mais pour qu'un jardin puisse pousser, la terre, il faut la fendre. J'ai cultivé mon jardin, elle était Ève, j'étais Adam. Mais depuis qu'on a fait patate, mon cœur est une tomate.
Voilà. Bon, vous êtes sur Radio Campus, vous avez l'habitude, c'est pas grave.
Normalement, on devrait crier pour réveiller tout le monde, mais bon.
Allez, on va enchaîner, on va continuer de parler de un peu d'agriculture, puisqu'on a vu récemment que certains agriculteurs commencent à changer de culture et se tournent de plus en plus vers la culture, attention, du bambou.
Oui, oh, c'est pas, oui. Ça fait des années que le bambou est connu. Il y a déjà eu des fermes en France, dans le sud de la France, dans le sud-ouest, qui plantaient du bambou, mais c'était vraiment un petit peu expérimental encore.
En tant que mur végétal plus que.
Sauf que maintenant, avec toutes les contraintes, on va dire, de pollution, etc., c'est une solution qui. C'est pratiquement un matériau miracle, le bambou, quoi. Ça pousse tout seul. Il faut même surveiller pour que ça pousse pas trop en fait, voilà, parce qu'il a tendance à t'étendre.
T'as qu'une plantation, c'est ça qui est pas mal. T'as qu'une plantation et après c'est que des coupes. Et après il continue de grandir.
Et ça pousse, tu et coupes, ça demande pas grand chose. Faut juste bloquer un peu, fermer ta parcelle pour éviter que les racines s'étendent sur les plantations autour, etc. Et ça monte, ça pousse, ça double pratiquement de hauteur tous les jours. C'est un matériau super résistant, super écologique, qui absorbe beaucoup de CO2. C'est ça qui est intéressant. Donc, tu peux le mettre autour d'autres, tu peux le mettre autour d'un élevage, etc. Donc tout le CO2 qui est généré par tes vaches,
est absorbé
par les vaches qui pètent, et oui, il faut le dire.
Quoique non, maintenant il faut garder les vaches qui pètent, parce que le méthane, exactement, ça te permet de faire une autre ressource renouvelable.
Exactement, tu peux générer de l'énergie à partir du méthane de tes vaches pour alimenter ta ferme, enfin c'est impressionnant, et tes drones, et tes robots, etc., qui surveillent tes plantations de bambou. On est en train de faire un truc circulaire. Et le bambou, c'est pratiquement miraculeux qu'en France, c'est pas la tradition, mais quand tu vois des chantiers dans les pays, dans le pays où le bambou est développé, tous les chantiers des immeubles super modernes là qui mesurent des kilomètres de haut, tous les chantiers sont à partir de bambou construits dans la journée, détruits le soir, et le bambou est recyclable, il est réutilisé. Et on l'utilise maintenant aussi, les fibres de bambou, pour faire
des vêtements.
Des vêtements, tu peux faire des vêtements, c'est ça avec.
Et
donc
plus,
tu peux faire tu peux faire les vêtements des agriculteurs en bambou, qui vont cultiver le bambou, vont manger avec des couverts en bambou qui sont recyclables.
Le bambou en plus est très, très résistant à tout ce qui est microbes et compagnie, virus, et ce qui fait que même dans le milieu médical, on cherche à faire des blouses ou autres en bambou, en fibres de bambou.
Il y a beaucoup d'hôpitaux d'ailleurs.
La cellulose de bambou est excellente, quoi.
Voilà, c'est la révolution de demain. Donc en plus des meubles et les parquets de bambou qu'on voit un peu partout, on aura en plus...
sans parler des meubles, etc. Des ordinateurs en bambou. Etc.
Alors, à savoir qu'en Italie, il y a déjà plus de 900 agriculteurs qui performent déjà le bambou. En France, on en est encore loin.
Ouais. Alors, ça commence tout doucement, on est encore plus traditionnel.
Et tu as la possibilité aussi que quand ton bambou sort de terre, donc tu as juste la pousse de bambou, tu peux aussi la couper nette pour en faire un aliment. Qui est aussi très bon pour pour toi, pour tout ce qui est fibres et compagnie.
Ou tes animaux, si t'as un élevage d'animaux. Quoi. Ouais. Et il y a une estimation, selon les agriculteurs qui ont essayé, ça rapporte à peu près 20 fois plus. Un hectare de bambou rapporte à peu près, en revenu net, 20 fois plus qu'un hectare de céréales. Donc il ne faut pas s'étonner, entre des champs de bambou avec des éoliennes au milieu et voilà. Des drones qui vont surveiller tout ça. On vous décrit l'avenir sur Radio Campus, voilà, l'avenir dans quelques années de nos campagnes françaises.
Remplies d'ingénieurs informaticiens.
En bambou.
sur le toit de Radio Campus.
On parlait des robots tout à l'heure, mais effectivement, dans les nouveautés qu'on a pu voir cette année au Salon d'agriculture, il y avait des robots qui, effectivement, donc c'est pas génial à dire, c'est déjà comme ça, qui se promènent tout seuls, de façon autonome, dans tes grues, et qui te préviennent. Ils n'interviennent pas forcément, ils font pas forme du travail. Enfin, tu peux peut-être éventuellement les programmer pour enlever les mauvaises herbes, mais bon, qu'est-ce qu'une mauvaise herbe maintenant Et t'envoies des alertes. Ouais. Et pour chaque parcelle, tu connais les limites, tu peux dire, je veux respecter autant de telles limites, autant d'insectes, autant d'ensoleillement, de micrométrie, etc. Et le robot va te prévenir, quoi. Donc, je plaisantais pas quand je disais que tout à l'heure, que l'agriculteur, il va se lever, il va plus sortir son lit de la journée, quoi.
Bah, surtout que le robot, tu le programmes, entre guillemets, pour dire ta parcelle fait tel mètre, enfin, tel espace, tel hectare. Et le robot va aussi t'envoyer des photos de ce qui se passe sous les feuilles de tes plantations. Parce que toi, normalement, tu dois aller vérifier, retourner. Donc lui, le robot va te faire gagner, mais un temps monumental.
On veut rester dans les insectes toujours ?
Allez, c'est parti.
Sur les insectes, nous, on peut en manger. C'est encore un petit truc de bobo. Mais
c'est la nourriture de demain.
De l'avenir. Puis c'est super bon en plus, moi j'essaie.
Plein de protéines.
Exactement. Il faut aussi... n'est pas forcément très bon. Encore les petits vers qui ont le goût de chips, je veux bien. Les sauterelles, c'est autre chose.
Le ver de farine, ça développe. Ça pousse aussi facilement que le bambou. Quoi. Tu peux en produire des tonnes et des tonnes. Et tu peux nourrir tes animaux avec ça. Plutôt que, parce qu'on sait que l'un des problèmes d'agriculture en France, notamment, c'est que il y a une grosse partie des plantations, des champs de céréales, etc., qui sert à nourrir les animaux au lieu d'aller nourrir les hommes, quoi. Et tandis qu'avec les insectes, ça serait une solution de protéines très efficace pour les animaux, ce qui permettrait de reconvertir une partie des champs de céréales pour nourrir la race humaine plutôt.
Il faut le présenter autrement, parce qu'un bon steak par rapport à un verre de farine dans l'assiette, c'est un peu bizarre. Quoi, tu vois.
Non, mais on a vérifié tout ça.
Si, tu t'amuses à essayer de le choper, parce qu'il va se tortiller
tout le temps.
Mais
tu peux faire de la farine, avec les herbes, tu peux faire de la farine, donc tu peux faire du pain avec de la farine d'insecte. C'est bourré de protéines et pas de gluten.
Alors, à l'heure actuelle, si on regarde, pour faire un petit point sur ces avancées, on sait que 67% des agriculteurs français utilisent actuellement les nouvelles technologies.
Ils sont presque obligés. Oui.
Alors forcément, il y a celles qu'on connaît tous, les GPS, les drones ou les images satellites.
Le téléphone mobile, etc. Enfin, c'est minimum. Quoi.
Ce qui est le plus présent apparemment, ce sont les GPS sur les tracteurs, les caméras sur l'exploitation. Au cas où ça brûle ou qu'il pleut beaucoup.
C'est ça exactement, tu peux pas être partout, quoi. Puis ça coûte cher, des employés, ça coûte cher et t'en as peut-être besoin de moins en moins, surtout avec toutes les machines autonomes. Mmh. Avec un tracteur maintenant, tu fais plus de travail qu'avant, quoi. Donc t'as besoin, un homme, une personne seule peut pratiquement gérer une exploitation à lui tout seul. Ouais.
C'est ça, donc tu as le gain de temps, comme tu dis, tu as aussi la précision dans ta récolte.
Exactement, tu sais, tu ne gaspilles pas, tu n'as pas besoin de dépenser trop d'eau ou d'engrais, etc. Si c'est ton cas, donc c'est des gains d'énergie. Et c'est aussi des gains en sécurité pour la santé de l'agriculteur, la santé des bêtes et la santé des produits.
Des consommateurs aussi.
Exactement.
Et une meilleure organisation, puisque t'as plus besoin d'aller faire 3 km pour voir si ton champ il est bien en état. Comme tu dis, voilà, tu tends ton bras hors du lit, tu cliques pour voir si tout va bien. Mais bon, apparemment, ce sera pas les seuls avancées, puisqu'on aura potentiellement plus tard une meilleure préservation de l'environnement. Plus de traçabilité, plus de production.
C'est le sujet dont on parle le plus. C'est le sujet le plus chaud pratiquement au salon de l'agriculture. Quoi. C'est l'environnement. Enfin, on a toujours mis sur le dos des agriculteurs le fait de polluer, mais c'est aussi les premiers acteurs de la garantie d'avoir une nature à peu près propre, quoi, et viable.
Et quoi de mieux pour clôturer ce dossier agriculture de vous parler d'éleveurs argentins.
Oh mon Dieu.
Je te laisse la faire, Dom.
On va faire toute la crédibilité. Non, débrouille-toi. Bon, c'est le salon. En Argentine, il y a aussi une espèce de salon d'agriculture, enfin, comme dans tous les pays, quoi. Et donc, il y a des éleveurs locaux qui ont donné
leur vache de race Angus.
Hein. Bon, attention, c'est rigolo. La viande d'Argentine est très réputée.
Un taureau, pardon.
Un taureau. Oui, c'est un taureau brillant, très cher.
Qui ont décidé de lui donner ce taureau gagnant du salon de l'agriculture le nom de Mbappé.
Ah oui, normal.
Et voilà, on est
champion du monde, c'est logique.
Ouais, ils sont pas du tout romanchards, il y a pas de problème.
Oui, bon, la France a battu l'Argentine, donc ouais, ils sont pas romanchards, c'est bien.
Allez, on dit adieu à l'agriculture, on se retrouve l'année prochaine sur le toit de Radio Campus.
Exactement, au milieu des champs.
Et on va vous parler d'un scandale qui a eu lieu très récemment sur Twitter.
Le débat, on ne parlait pas de politique, mais là c'est plus grave que la politique.
On ne peut pas passer à côté, il fallait qu'on en parle dans cette émission.
C'est le sujet chaud du moment. Et ça, la presse n'en parle pas. Hein. Ça, Jean-Pierre Pernaut, tout ça, je ne l'ai pas vu sur ce sujet. Il doit y avoir une censure.
Le toast brûlé gate, c'est ça ?
Ouais, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ouais.
C'est un utilisateur de Twitter, lambda, qui a
décidé... Il n'est plus lambda maintenant, il est connu. Ah là là.
Qui a décidé de prendre une photo de 9 tranches.
En fait, il avait une question existentielle, etc. Donc, j'imagine qu'il mangeait ses toasts tous les matins,
il se faisait un petit toast et il a remarqué qu'à chaque fois, il y avait une coloration différente selon le temps qu'il laissait dans le toaster. Hein, ouais. Ce qui est normal. Mmh. Et il a décidé d'en prendre 9 avec une cuisson différente. Donc forcément.
Il a fait un petit montage photo et il a classé les toasts du pratiquement du clair à peine grillé jusqu'au très très noir de 1 à 9. Et il a posté la photo sur Twitter en disant les gens,
c'est quoi votre toast préféré,
selon vous, quel est la cuisson, ouais, le toastage idéal du toast, je sais pas comment t'appelles ça, la cuisson idéale du toast. Et il ne s'attendait pas à ce que ça... Enfin, c'est comme sur Twitter, tu poses une question banale et t'as dit... Et là, c'est parti, mais dans des débats de folie. Il y a eu des insultes, il y a eu des explications scientifiques qui disaient, il y a des gens qui disaient, alors moi, pour le matin, je faisais plutôt 3-4, si je veux manger si je veux me faire un sandwich, c'est plutôt ceci, cela, etc. Et ça, c'est parti en insultes racistes. Si tu dis un chiffre plus haut que 10, je veux plus t'entendre parler, il faut que tu meurs.
T'es un animal.
Etc. Non, mais ça, c'était, j'avais lu le tweet justement de ça qui disait, pour moi, c'est 5 ou 6, sinon, vous êtes des animaux. Et toi, tu fais, mais je vois pas le rapport. C'est bon, c'est parti en troll.
C'est ça, donc je pense qu'à la base, la démarche était saine de juste savoir comment les gens voulaient manger leur toast.
Ouais, ou pour lancer une connerie histoire de rigoler avec ses potes, mais bon, ça a mal tourné.
Parlons sérieusement, c'est un sujet sérieux quand même. J'avoue que ça dépend. Bon, le matin, je prends pas de petit déjeuner, donc ça serait plutôt 4-5, 6 grands maximum. Mais par exemple, si tu fais un sandwich, style sandwich triangle, etc., un 2 pas plus, parce qu'il faut toaster un peu le pain, etc. Mais après, tu peux rajouter, est-ce que tu mets du beurre dessus ou pas ? Normalement, pour le typique sandwich, ouais.
Est-ce
que tu mets du beurre avant ou après de le toaster? C'est pas la même coloration.
Il faut savoir.
Les Français veulent des réponses, mon cher Dom.
Il faut que le toast sorte tout juste, qu'il soit chaud pour que le beurre fonde.
C'est une autre façon de voir.
C'est vrai que quand tu vois les 7, 8, 9, non, c'est trop.
Je suis désolé, c'était pas prévu, mais vu qu'on parle de toast, je suis obligé.
Ah non, je vais vraiment partir du studio de François.
Ton ventre qui farine, tu es morte de pain. Tu manges des tartines dans ta selle de pain. L'ami porte conseil, il faut casser la croûte. À la prochaine bretzel, on quitte l'autoroute. À force de beurre et de tartine, tu vas t'attirer de gros sandwich.
Gros sandwich.
À force de beurre et de tartine, tu vas t'attirer de gros sandwich. Dans ton appartement de 20 mètres carrés, tu répares des grippins et ta vie est austère. Tu ranges les croissants dans l'ordre des croissants. C'est la tondure labeur de céréales killer. À force de beurre et des tartines, tu vas t'attirer de gros sandwichs.
Gros sandwichs.
À force de
gros sandwich.
Voilà, c'était Stella avec les tartines.
Classique, classique de chez classique.
Magnifique.
Ça donne faim, ça.
Et on va clôturer cette émission avec quelques petites news. Est-ce que vous saviez ce qui se passe en une minute sur Internet?
Oui, c'est pas des trucs pas avouables, mais...
Voilà, douche comprise ou pas?
Et c'est une question que des gens se sont posées. Donc prenant n'importe quelle minute, là, maintenant, dans la prochaine minute qui arrive, qu'est-ce qui va se passer dans le monde entier sur Internet? Alors, tout d'abord, on va parler des choses qu'on connaît tous. Il y aura plus de 973 000 connexions à Facebook.
Ça, c'est en 2018. Je préfère même pas imaginer. J'ai vivement l'année prochaine pour avoir les chiffres 2019.
Alors c'est ça, on a les chiffres de 2017-2018. Forcément, en 2019, on les aura pas tout de suite. Quelle plus grosse augmentation on a pu voir, notamment au niveau de Netflix?
Ah oui, ça c'est affolant. Ouais. J'ai fait le calcul, j'étais étonné.
Donc, en une minute, nous avions 70 000 heures regardées en 2017.
Ce qui correspond à un peu plus de 4 millions de personnes quand même.
En une minute. Hein.
En une minute. 4 millions de personnes en même temps.
C'est pas une personne qui regarde en même temps 270 000 heures.
C'est 4 millions d'affichages.
Il m'arrive de regarder deux séries en même temps, mais là, non, je peux pas.
À l'heure actuelle, Netflix aura plus de 266 000 heures de visionnage en une minute.
Alors, je crois que ça c'est grâce à Radio Campus et l'émission Magazine des séries qui va suivre la publicité qu'on fait pour Netflix.
Ça veut dire 3 à 4 fois plus d'augmentation par rapport à l'année dernière.
Surtout que là, on arrive à près de 15 millions de personnes. Tu vois, c'est à plus de 300%.
Alors, YouTube, on aura 4,...
Ça existe encore, YouTube?
C'est 4 millions de vidéos vues en une minute.
En une minute. C'est affolant.
38 millions de messages, les simples SMS que vous pouvez envoyer. 38 millions dans le monde. Bon, c'est correct.
Ça va.
2,4 millions de Snapchat. Et on parle aussi, je pense, d'Amazon. Hein.
En 2000, les achats.
C'est ça.
En fait, oui, il n'y a pas qu'Amazon, mais les achats en ligne. Les achats en ligne, on a pratiquement à 1 million de dollars. C'est ça. Plus de 860 000 dollars. Chaque minute dépensée en achat en ligne. J'en suis pas encore loin. C'est pas une seule personne qui a acheté pour 800 000. Un petit bateau, une voiture, une maison, ça peut aller vite. Hein.
Bon, on ne parle pas des vidéos que Rénal regarde. Ah, elles ne sont pas dans le classement.
Je trouve ça bizarre, moi.
C'est le seul truc que tu as cherché en plus.
Bah ouais, puis je faisais large les 800 000 vues, moi.
Donc voilà, Amazon et les autres compagnies, je pense qu'Amazon a maintenant maîtrisé la majorité hein, au niveau des achats en ligne et des envois.
Ouais. Ouais, par contre, il faut mesurer un peu le chiffre. Par exemple, quand tu vois qu'il y a pratiquement 4 millions de requêtes sur Google par minute, il ne faut pas oublier que dedans, il peut y avoir tout. Alors, c'est pas chaque personne qui tape son petit mot, les mots. Voilà, il y a aussi toutes les requêtes, les bots, les requêtes automatiques générées par les applications et compagnie. Même les messages, les mails par exemple, je ne sais pas combien il y a de mails par jour, c'est
187 millions.
près de 200 millions de mails. Ouais. Il faut pas oublier qu'il y a des mails auto.
Et encore, les mails ont perdu grosso modo 10% par voilà. rapport à l'année d'avant. Mais ça, bon, ça peut s'expliquer parce que chaque structure fait ses propres applications, donc ne passe plus par des mails.
Fait des envois directs de messages.
Voilà. Ouais. Ta banque, bah, t'as l'application de ta banque sur ton téléphone. Enfin, tu passes plus par des mails, tu passes par les applications maintenant. Voilà.
Alors, si vous voulez avoir le détail, puisqu'on a un joli camembert avec tous les points.
On a encore faim, c'est malin. Voilà. Toast, camembert, on reste dans la polémique. Oh, ouais. Il reste encore du saucisson. Ouais, c'est bon.
On mettra tout cela à disposition sur le Facebook de l'émission Heureusement en France. Et si vous voulez y retrouver les podcasts, n'hésitez pas à aller sur le site de Radio Campus sur la tranche 13h-14h ou sur notre site web anotherpodcast.fr. Bien sûr,
débrouille-toi.
Vas-y.
Non, c'est ta news.
Et moi, je voulais faire un petit enchaînement avec le magazine des séries et le quotidien du cinéma qui enchaîne après nous. Puisque on a appris quelque chose sur Matrix.
Je vois pas le rapport avec le cinéma, Matrix.
Ça envoie du lourd. Nous connaissons tous ce générique.
Oh oui, le fameux visuel avec les chiffres. Enfin, je sais pas ce que c'est. Oui, justement, c'est quoi?
Des symboles en vert qui tombent sur un fond noir. On sait
que tout le monde a mis une fois en fond d'écran sur son téléphone ou pas. Puis il a vu
ça pendant qu'il se met en veille. Ouais. Une fois que t'as mal aux yeux, tu changes. Des gens se sont demandé qu'est-ce que c'était. Et du coup, ce sont des caractères chinois ou japonais. Donc c'est un mélange de hiragana, katakana et kanji japonais. Et ils veulent dire quelque chose.
Ah, c'est comme les fameux tatouages que tu te fais, tatouer des caractères chinois quand t'es bourré une soirée, puis tu t'aperçois qu'en fait ça veut dire voilà.
C'est que le mec il a tatoué plein de trucs, mais qu'il faut pas parler à la radio, ou alors après 23h.
Faut parler en Chine, faut pas montrer ton tatouage en Chine parce que ça veut dire des trucs bizarres.
Et pareil pour les mecs qui se font des codes-barres. À la caisse, ils ont une surprise. Non, et en fait, on s'est rendu compte que tous ces symboles qui défilaient étaient en fait des recettes de cuisine en japonais pour la série Matrix. J'ai trouvé ça génial.
On se demande, les auteurs, ils étaient en train de manger, donc on va commander japonais, puis hop, qu'est-ce qu'on peut mettre quand ils ont pris les emballages et ils ont simplement recopié, c'est ça en fait.
C'est comme ça. Dom, je te laisse nous parler rapidement de la musique de fin.
La musique de fin, magnifique. Alors, 1966, comme quoi, et c'est une chanson qui est encore d'actualité. Jean Poiret, un génie, Jean Poiret, le compère de Michel Serrault, il avait fait une reprise de la célèbre chanson de Brel, Une vache à mille temps. Sauf que lui, il a fait Une vache à mille francs. Alors, vous écoutez la chanson, vous remplacez francs par euros, et vous allez vous apercevoir que la chanson est toujours d'actualité.
Sauf le style de musique. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette émission de Heureusement en France. On se retrouve très prochainement pour une autre émission. À bientôt. Salut.
Salut. La vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac. Et ma faim qui bat la mesure aussi mes fins de mois. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum sec à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas. Pendant que le ministre nous assure que la viande de la vache ne monte pas, une vache à 1000 francs. En quittant le Morbihan, de bien chemin faisant comme par enchantement, une vache à 5000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5000 francs. On ne sait pas comment, augmente de 20% en traversant le Mans et devient par conséquent une vache à 6000 francs, une vache à 6000 francs. C'est bougrement tentant. C'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10 000 francs, une vache à 10 000. En sortant de la ville, pris dans un tourbillon, devient à Arpajon par un calcul habile, une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry, 200 à Juvisy, 300 000 à Orly, arrivant à Paris, à la porte d'Italie, la vache n'a plus le prix, la vache est au gobelin, multiplié par 20, par 252 au carrefour Richelieu et par 817 en sortant de la Villette, au dernier temps de la vache. Rôti sur l'étal, elle est là, au dernier temps de la vache. Y a un monde entre sa viande et moi, et l'État qui prend des mesures, l'État qui...